Salut les amis, bienvenue dans le plein de super. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast 100% Comics où on se charge de vous faire découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. On est dans précisément le quatrième épisode de notre série Annex Burn Baby Burn où on va couvrir la carrière de John Byrne, l'auteur légendaire, dessinateur, scénariste, encreur, tout ce que vous voulez, il l'a fait. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de son run mythique sur Captain America aux côtés de Roger Stern. C'est Roger Stern qui s'occupe du scénario sur ce titre sorti au tout début des années 80. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche, je suis accompagné de mes comparses de toujours, l'inégalable Lord of Babylon. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ?
Eh bien ça va bien et je ne dirais juste une chose, in Roger I trust. Voilà.
In Rogers We Trust. Également, à nos côtés, l'inusable Isaac, notre barman, votre barman. Bonjour Isaac, comment vas-tu ?
Ça va très bien, je suis accompagné aussi de mon chat, qui s'appelle Kirby, donc en hommage au créateur de Captain America, et qui est en train de me déchiqueter le bras.
Bravo. Way to go, Kirby.
On aperçoit des pattes.
Des pattes à l'écran. Donc, vous le savez, hein, nous on aime bien les comics des années 80. On va aller direction les années 80 pour vous parler d'un run légendaire sur Captain America, peut-être le plus grand run de tous les temps. Je ne sais pas, on va peut-être vous spoiler la conclusion de notre analyse. On se retrouve en 1980, alors on est encore en pleine guerre froide hein, à l'époque. Par exemple, le 4 janvier, c'est le début de l'embargo céréalier contre l'URSS. Les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Moscou seront boycottés par 56 pays. Hein, les tensions sont à leur comble entre les USA et la Russie. Le 24 mars, c'est aussi le début de la guerre civile au Salvador. C'est aussi l'année de la mort de Tito. Le 31 août, par contre, on signe les accords de Gdansk qui autorise l'existence des syndicats libres en Pologne. Enfin, une bonne nouvelle. Et puis, on retourne dans la sombritude le 22 septembre avec le début de la guerre Iran-Irak. Donc, voilà, des tensions, en veux-tu, en voilà, en géopolitique mondiale. D'ailleurs, en règle générale, c'est l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir aux USA et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni qui marque un peu le début de ce qu'on appelle la révolution conservatrice. Autrement dit, le début de la grande enfilade, quoi, hein, si on veut. Une petite nouvelle, une bonne nouvelle. Le 1er août, Vigdís Finnbogadóttir devient la première femme présidente de la République d'Islande. Et ça, c'est pas banal. Qu'est-ce qu'on a ?
Elle est parente avec Björk.
Bah, sûrement, ils sont tous parents là-bas. Hein. Sans vouloir être dans le cliché. En tout cas, au Hit Parade, en musique, on écoute Police avec Don't Stand So Close To Me, mais aussi Blondie avec The Tidy's Eye. Ah, ABBA est encore de la partie. Il y a un peu de disco encore qui règne avec Ottawa. Ah,
c'est la queue de comète.
C'est la fin du disco. C'est la queue de la comète du disco. Ouais, j'étais chercher dis-nous, pardon, Isaac.
C'est pas cette année-là, justement, qu'il y a la grande manifestation anti-disco. Où ils brûlent où tu es invité en fait à venir, je sais plus dans quelle grande ville, dans un stade, ils ont brûlé des disques de disco. C'était la manifestation Disco Sucks. ça paraît très drôle comme ça, sauf qu'en fait, tu t'aperçois au bout d'un moment que c'est un truc de l'alt-right parce qu'ils supportaient plus que la musique soit faite par des non-blancs.
voilà.
C'est, oui, révolution conservatrice, donc.
D'accord. Okay.
Le début des emmerdes.
J'ai jamais entendu parler de ça. Non.
Ouais, c'est Disco Sucks, mais je crois que c'est, je sais plus si c'est 80 ou 81.
D'accord. Ouais, il y a un relan un peu 1980, j'ai envie de dire, dans notre période actuelle.
En ce moment, ouais, on est un peu... Ouais. Malheureusement, que sur les trucs pourris.
Ouais, oui. Voilà.
C'est dommage, j'ai pas vu de nouveau Blondie ou de nouveau Police.
Ouais. Mais par contre, nouveau Roger Stern et John Byrne sur Captain America.
Non. Parce qu'il y a plein d'autres trucs cool hein, dans les années 80 au niveau ciné. Ouais. C'est blindave. Hein. On a Raging Bull, Elephant Man, L'Empire contre-attaque, Shining, Pulsion de Brian De Palma, Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Il y a tout.
Ouais, mais cette année, nous, on a Super Mario et
les trois mousquetaires.
Chacun sa croix. L'Oscar est remporté par Kramer contre Kramer. Tiens.
Ouais, c'est face à Raging Bull.
T'as
Raging Bull à côté, t'as Kramer contre Kramer. À qui on va donner l'Oscar? Voyons.
Tu m'étonnes que Scorsese il est sombré dans la drogue. Dans... Mais enfin.
Ah ouais, mais ça devait parler à beaucoup de gens qui étaient décisionnaires à l'époque.
Les jurés devaient être divorcés.
Colère de Yuppie qui se retrouve père divorcé. Palme d'or ex aequo pour Que le spectacle commence de Bumfos et Kagemusha.
Oh, même les palmes d'or, ils tuaient.
Ça tue sa mère hein, cette année-là. Le César, par contre, est attribué à Thaïs de Roman Polanski. César du
pareil, c'est une tuerie.
C'est une tuerie. Voilà, beaucoup de décès. Alfred Hitchcock, par exemple. Ouais, Roland Barthes, le sémiologue. Jean-Paul Sartre. Henry Miller, le romancier aussi, décède. Steve McQueen. Ouais.
C'est la femme. Madame Sartre.
Madame Sartre. Joe Dassin, Tex Avery.
Joe Dassin aussi. La même année, Joe Dassin, je croyais qu'il était mort plus tard, tu vois.
Ah ouais, moi plus tôt.
Non. John Lennon aussi.
Ah oui, John Lennon, ouais, 80, ouais.
Oui, oui.
Le gymnaste. Et Jesse Owens, le poète. La naissance de Christina Aguilera, hein, mais aussi de Ryan Gosling. Et aussi de Martin Higgins, hein, bande de petits coquins. Vous vous souvenez de Martin Higgins?
Non.
Pas du tout.
Le tennis. Le nom des vêtements. Ah, ça y est.
Voilà. Voilà, bah, je crois qu'on a bien planté le décor là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être venir au centre du sujet.
Je comprends pourquoi on se plongeait dans les bandes dessinées à cette époque.
Ouais, la réalité était bien difficile à supporter. alors, ce run de Captain America qui a fait date, et ça couvre les épisodes 247 à 255 qui vont de juillet 1980 à mars 1981. Et donc mis en vente d'avril à décembre 1980. En France, ça a été publié dans Captain America 1 à 4, d'octobre 84 à juin 85, chez Haredi, c'était à l'époque, ou Artimar Haredi. Hein,
ouais, Haredi, Haredi. Ouais.
C'était Haredi. Donc au scénario, comme je vous l'ai dit, Roger Stern et John Byrne. Également John Byrne au dessin. Joe Rubinstein, dont on parlera, à l'ancrage. Les couleurs sont de Georges Roussos sur le numéro 247, le premier, et c'est ensuite Bob Charen qui prend la suite pour le reste du run. L'éditeur, c'est Jim Salicrup, j'adore ce nom, et l'éditeur en chef, notre dieu à tous, Jim Shooter. Donc, première partie de notre analyse, le résumé, ça c'est quelque chose que j'aurais pas dû dire à haute voix, mais c'est pas grave. qu'est-ce qui se passe alors dans la série? Alors, on a au début une saga en trois épisodes qui voit Captain America faire face à Machine Smith, sachant que l'intrigue débarre avec en fait le retour... De comment s'appelle-t-il le baron baron Franz Strucker est de retour, il est apparu dans les épisodes précédents et il va s'échapper, Captain America va tenter de l'intercepter et il va se rendre compte que ce n'est pas le baron Franz Strucker mais c'est bien un androïde à son image. Il va mener enquête, remonter à la cause de tout ça. La cause, c'est Machine Smith, un méchant qui est une construction robotique, hein, qui a une âme humaine, un homme qui s'est transformé en machine quelque part, et qui est aussi un inventeur. Machine Smith va lui envoyer aussi l'immense Dragon Man dans les pattes à Captain America. Dragon Man qui est plutôt l'homme dragon, hein, qui est plutôt un adversaire des quatre fantastiques. Et donc, bon, Captain America va remonter jusqu'à Machine Smith et lui faire son compte. Le numéro 250, ça tourne autour de la présidentielle et la candidature de Captain America. Les gens veulent voter pour Captain America. On va le démarcher pour qu'il devienne... Parce qu'il se lance à la conquête de la présidence. Il va nous expliquer pourquoi il refuse. C'est un épisode assez original, quand même. 251-252, Captain America affronte Mr. Hyde et Batroc. Mr. Hyde qui a engagé Batroc pour le libérer, le faire sortir de prison. Mais Mr. Hyde est complètement taré. Il veut sa vengeance sur son ancien compatriote, le Cobra. Il veut faire sauter la moitié de New York pour éventuellement réussir à désinguer son ancien partenaire. C'est un peu beaucoup pour Batroc qui finira par s'allier à Captain America pour faire tomber le méchant Mr. Hyde. 253-254, on touche presque à la fin de la série. Ces deux épisodes qui tournent autour du Baron Blood, le vampire. Captain America va en Angleterre, retrouver ses vieux alliés des envahisseurs, Union Jack, Spitfire, vieillissant l'un comme l'autre. Qui affronte le retour du Baron Blood, le Baron Vampire, un bel hommage à la Hammer, j'ai envie de dire, les films de la Hammer, on a un petit goût de fantastique anglais, gothique, qui se terminera dans l'extrême violence, hein, puisque Captain America sera obligé de tuer Baron Blood en le décapitant, hein, parce qu'il n'y a que ça à faire avec un vampire. Et le 255 et dernier épisode de leur run, c'est un retour sur les origines de Captain America, les origines qui sont revisitées par John Byrne. C'est l'épisode qui fête les 40 ans du personnage. On vous expliquera pourquoi ça se termine un peu de manière abrupte, ce run de Roger Stern et John Byrne. Il est temps de répondre à la question que tout le monde se pose. Comment, de quelle manière avez-vous découvert ce run de John Byrne ? La parole est au Lord. Lord,
dites-nous. C'est moi qui commence ?
Vas-y.
Moi, je l'ai découvert grâce à un copain qui avait... Alors, je ne l'ai pas découvert avec la première édition en France, je l'ai découvert avec, la deuxième. Donc, grâce à ce pote qui l'avait, qui était la collection Privilège. Chez Lug ou Semic, je pense Semic, qui était donc une collection par souscription. Hein, en gros, aujourd'hui, c'est tu files tes sous sur Ulule, hein, mais à l'époque, voilà. t'envoyais ton chèque directement et donc ils éditaient selon le nombre de commandes exactes. Du coup, ils avaient réédité donc tous ces épisodes dans cette collection, collection Privilège, Captain America. Et donc mon pote l'avait et un jour, je lui ai emprunté et je me suis bien mangé la face parce que faut savoir aussi à cette époque-là. Les éditions Ready s'étaient arrêtées. Au niveau super-héros, on n'avait que tout ce qui était publié par Semic, et donc c'était que du Marvel. D'ici, alors en kiosque, on n'en avait plus du tout. On en avait déjà très peu, et même quasiment même pas de DC en librairie, enfin, à part quelques trucs chez Édition USA. Voilà. Et Captain America n'était pas publié régulièrement. C'était pas une série qui était publiée. On avait. Moi, j'avais lu des trucs dans Strange Special Origin, donc il y avait des épisodes. Notamment, ils avaient réédité des épisodes de Kirby. Un qui m'a toujours halluciné encore aujourd'hui, qui est Cap contre Crâne Rouge qui a subtilisé le cube cosmique. Et c'est une bataille monstrueuse entre Cap et Crâne Rouge qui a tous les pouvoirs sur une île. Enfin, voilà, pour moi, c'est un des sommets de Kirby, un des sommets de la série à l'époque. Et il y avait eu aussi une édition de quelques épisodes de la série. Donc à l'époque, c'était écrit par Mark Grunewald et c'était Rom Lim qui dessinait. Et c'était les rues Street of Poison, je crois qu'ils avaient le nom. Et c'était paru dans Titan. Donc moi, Cap, au niveau série, je découvrais comme ça. Et puis, Cap, on le voyait dans Avengers, tout ça. Bon. Et bref, du coup, mon pote qui a ce bouquin-là, je le lis et je me prends vraiment là une... Ouais, c'est bon, bah John Byrne déjà, bon ça, ça va, je connaissais, je maîtrisais déjà et putain, vraiment une claque de. En fait, c'était ouais, voilà, en fait Cap, c'est ça quoi. C'est déjà à Kirby, mais là Cap posé dans un contexte, une époque qui me parlait beaucoup plus parce qu'elle était très proche de ce que je connaissais. Donc les épisodes sont du début des années 80, moi je lis ça dans les années 90. Ça peut paraître long comme ça quand on se dit 10 ans, mais au final, c'est des époques qui nous parlent, quoi. C'est vraiment des trucs, c'est comme si c'était notre époque à ce moment-là. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, moi, ces épisodes, grâce à cette collection-là, que bah, j'ai jamais retrouvé, moi, cette édition pour moi. Et du coup, bah, j'ai profité un jour que Panini l'avait réédité dans un petit volume bien sympa, et puis voilà.
Ah, il y a une
Voilà,
réédition chez Panini,
Oui, il y
hein.
a eu une édition il y a assez longtemps, je crois, au début des années 2000. Ils avaient une collection qui s'appelait Best of Marvel, du cartonné. Ils avaient aussi, dit-il, les premiers épisodes de Burn sur les Fantastic Four. Je pense pas que
Ah
c'était
oui.
une édition qui était destinée à faire plusieurs tomes. Mais voilà, c'est
Il me
comme ça que j'ai
semblait
découvert.
bien que je l'avais vu édité par
Ça coûte,
Panini, mais je ne le
ouais.
retrouve pas dans le quand
Ça
je cherche.
coûtait 21 euros, j'étais en train de me
Ok.
dire. Voilà, il y a tous les épisodes, il y a une préface de Roger Stern, qui est, je crois, une préface qu'il avait écrite pour l'édition TPB quelques
Ouais,
années
c'est ça, ça
auparavant.
doit être une reprise du
Et
TPB.
ouais, voilà. Et ouais, vraiment pas mal. Moi, j'étais content de l'avoir eu à l'époque, comme ça. Et aujourd'hui, je crois que les épisodes. Je sais pas quand c'est qu'ils les ont réédités depuis. Je sais qu'ils vont être bientôt disponible parce que au niveau de les intégrales Panini, on arrive à cette période-là. Je pense que la prochaine intégrale, c'est les épisodes sont
C'est ça,
dedans.
ouais.
Donc l'année prochaine. Voilà. Donc en tout cas, moi, deuxième édition chez SMIC. Cette collection-là, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, ça y est, je viens de
Village.
le. Les privilèges, voilà. Il y avait des super trucs. Il y avait les Thor de Simonson, les premiers épisodes, les Nick
Oh ouais, c'était vachement
Fury,
bien.
les choses comme ça. Après, ils avaient foutu les annuels. Je crois qu'il y avait Miller aussi,
Ouais.
le
Bah,
Wolverine de Miller, il me semble.
il publiait les
Voilà.
premiers trade paperback de
Ouais.
Marvel, donc forcément vraiment les séries mythiques qui avaient cartonné en leur temps et qui étaient demandées par les fans, quoi. Avoir une belle édition de run prestigieux, ouais. Donc le Wolverine de Miller et Claremont, des choses comme ça, et le Captain America, forcément, il avait sa place.
Ouais, totalement.
Isaac,
Moi, c'était
la rencontre.
dans les Captain America d'Aridi, donc la première édition en France, sachant que moi, je lisais déjà les Captain America de la série d'avant d'Aridi,
Ouais,
Aridi Artima,
ouais.
qui était dans des plus grands formats. Et qui était sur du papier un peu glacé comme ça. Et ce qui était. C'est toujours bordélique chez Aredi, la publication. Et ils ont fait plusieurs séries Captain America. Notamment, moi, les premiers numéros que j'ai lus de Captain America, c'était la période de Steve Englehart des années 70, avec Sal Buscema, donc qui est quand même un des sommets de la série, mais il y a beaucoup de sommets en fait dans les
Ouais,
séries Captain America. C'est plutôt une
oui,
série de qualité.
non.
Et j'ai lu, et quand j'ai lu cela, les Captain America, j'avais pas lu le numéro 1, pas celui avec l'homme dragon, mais j'ai lu le deuxième qui était donc le mercenaire et le, je sais plus comment ça s'appelle, le mercenaire et le monstre ou un truc comme
Ouais.
ça. Et le mercenaire et le démon. C'est ça, c'est
Ouais.
Mercenary and the Madman.
Ouais,
Et c'était Mr. Hyde et Batroc. Et je l'ai lu. C'est
oui. On a
les
lu jusqu'à
épisodes
ce
là,
que l'album
que
soit
la couverture
usé.
tombe. Et surtout, encore pire, l'épisode Souvenir et Souvenir et celui avec les vampires. Le Souvenir et Souvenir, l'épisode avec l'origine de Captain America, c'était
Ah.
vraiment. C'était
Le must.
le final parfait. Ouais, le. Et c'est, je pense que c'est la première fois que j'ai remarqué le dessin de John Byrne. Alors que John Byrne, j'avais lu les X-Men, mais je pense que c'est la première fois où je me disais, purée, c'est vachement bien dessiné. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de voir Captain America dessiné. Et à mettre en parallèle avec, à l'époque, il y avait les Teen Titans de George Pérez. Et les Ligues de Justice de George Pérez, donc ouais, c'est un peu le moment où j'ai commencé à repérer un peu les dessinateurs qui me plaisaient le plus, sachant que ouais, quand t'es gamin et à cette époque-là, Pérez et Byrne, C'est parfait parce que c'est eux qui dessinent le mieux les super-héros. Donc,
donc, ouais, on peut dire que c'était une claque visuelle hein, quand même.
Ouais.
Simple, c'est, ça se démarquait du reste de la production qu'on avait. Qu'on avait sous les yeux, sans diminuer le talent des autres, hein, mais il y avait
Captain America, c'était plutôt bien raté parce que parce qu'il y avait on avait lu les salles du schéma, donc avec Steven Gellert, et le retour de Kirby dans la bombe Mad Bomb, la bombe folie, et c'était vachement bien aussi. Et puis,
voilà, quand c'était pas eux, c'était Gene Colan, quoi.
Oui, parce que je crois qu'on avait lu aussi le Bucky, le retour de Bucky, où tu t'aperçois que c'est un androïde et tout.
Non, c'était pendant de nombreuses années, de toute façon, Captain America, c'était vraiment une très très bonne série, tant au niveau des scénarios qu'au niveau des dessins. Ça enchaînait les gros dessinateurs. Enfin, Kirby, il est passé deux fois dessus en plus, donc ça donne un peu
trois
le niveau.
Si on compte la création, puisque tu as eu la création où il dessine avec Joe Simon, il revient dans les années 40. C'est lui qui relance. C'est lui qui relance Captain America avec Tales of Suspense. Et il revient dans les années 70 où là, il fait tout. Il écrit, il dessine et il édite. Pour des numéros qui ont été très décriés, que moi je trouve super cool. Moi.
Hyper cool, oui. Alors c'était hors du temps, mais c'était.
C'était. Quand tu reprends, pour coup, c'est une série que je suis, moi. Je t'écoute toute cette période avec les éditions intégrales. Et c'est vrai que cette deuxième partie, que beaucoup de monde m'avait dit ça, décrié. Mais c'est vrai que c'est une série qui, qualitativement, est assez incroyable. T'as vraiment plein de grandes périodes, mais. T'as toujours des flottements entre certaines périodes et du coup par exemple le retour de Kirby tu vois qui arrive un peu après Engelhardt, mais entre lui et Engelhardt il y a le flottement et tu vois Kirby qui arrive qui expose tout quoi, il fait vraiment son truc à lui mais il le fait bien quoi. C'est puis alors la Mad Bomb, c'est tu le lis pour l'encaisser quoi. Moi c'est vraiment le truc, tu te dis waouh, il y a 50 000 idées par case, par planche, par tu le reprends et tu le reprends et tu te dis ah ouais mais oh putain non c'est un truc de. Je pense que si un jour je devais tomber dans la drogue, ce serait il faudrait que je me le lise à ce moment-là avec la. Je pense que c'est peut-être le truc qui fait que je tomberais dans la drogue pour vraiment le prendre comme il faut pour une expérience totale à la 2001 l'Odyssée de l'espace. Enfin voilà, c'est assez incroyable.
Toute la démesure et le génie de Jack Kirby sur cette série. Peut-être qu'on on en fera une analyse un peu plus poussée, un de ces quatre. Comme on disait, grande claque visuelle déjà dans un premier temps. Et puis pour en revenir au titre, je pense que dès les premières pages, on est happé par la mise en scène de John Byrne. Là, on arrive directement dans New York avec Captain America qui fait en quelque sorte son footing, tout est déjà posé. Hein, il va, je sais plus là. Il doit aller. Il a rendez-vous avec le Shield. Il fait
Il traverse New York. Il est sur le pont de Brooklyn. Habite Brooklyn à l'époque.
Alors ça, c'est aussi un des points forts de la série, de s'ancrer dans le New York avec une représentation quand même hyper détaillée par Byrne des décors, etc. Donc on est dans l'univers. New-Yorkais de plein pied et on est tout de suite dans le mouvement avec Captain America qui se balade, qui saute, qui va partir donc dans cette intrigue avec le Baron Strucker et remonter l'intrigue. Alors c'est super, moi je trouve le coup de mettre un premier méchant qui est une fausse piste, un écran de fumée pour dernier à révéler un autre personnage. C'est un peu l'exemple à suivre quand tu veux démarrer un run sur une série de super-héros. Hein. Tu le places tout de suite dans le contexte pour présenter un petit peu ses points forts, ses pouvoirs. Tu lances un personnage, un ennemi qu'on connaît déjà, et finalement tu pars sur un autre truc en le faisant affronter des menaces qui sortent un peu de sa zone de confort, comme on dirait maintenant, avec des trucs comme l'homme dragon et Machine Smith qui sont un peu des personnages qui sont un peu hors de sa portée, théoriquement.
Ouais, et puis il y a le fil rouge qui démarre dès le premier épisode des souvenirs de Captain America.
Puisqu'il
vient
aussi
de récupérer ses véritables souvenirs.
Oui, parce que c'est un run qui, contrairement Enfin, en tout cas, pour l'époque, c'est pas du tout exceptionnel. Ce serait exceptionnel, je trouve, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une nouvelle équipe créative qui arrive, mais qui ne fait pas table rase de ce qui a été fait avant, qui ne part pas de zéro, mais qui reprend le contexte de plein de choses avant pour essayer de l'utiliser comme dans les éléments du récit de l'intrigue, et vraiment à différents niveaux. Par exemple, Stern et Byrne, ils ont mis en avant le côté un peu vie privée de ce Captain America. Donc, on le voit dans l'immeuble, on le voit avec ses voisins, et tout ça, on le voit dans son travail de dessinateur publicitaire. Mais ça, c'est déjà des petits éléments qui sont posés dans l'année précédente, quand c'était Mackenzie qui était au scénar. Et du coup, je trouve que voilà, ils ont pioché un des trucs vraiment intéressants, c'est-à-dire vraiment faire une vie privée à Steve Rogers, chose qu'on n'avait pas vraiment dans toutes les décades précédentes. C'est-à-dire que on avait Captain America, et quand il ne l'était pas, ben finalement, il était Captain America chez les Avengers, quoi.
Ouais,
Et du coup,
ils avaient essayé de lui
ouais.
donner juste un emploi de policier à un
Oui,
moment
oui,
donné,
oui.
mais
Qui
ouais,
fonctionnait difficilement. Et
ouais.
la vie privée, bon, c'était avec Sharon Carter. Mais du coup, là, déjà, ils reprennent un élément de Mackenzie qui est vraiment pertinent. Pour le développer beaucoup plus, c'est une des choses que j'adore. Et l'autre truc super important, et là, à mon avis, c'est le truc essentiel pour Stern, c'est de revenir aux origines de Captain America. C'est-à-dire que à peu près 2 ans avant ou 1 an avant, parce que Stern était l'éditeur de Captain America, et donc ils ont voulu réactualiser ou reposer les origines du personnage. Et on en verra peut-être dans le détail, hein, parce que je les ai un peu oubliés, mais en gros, Stern n'était pas du tout content de ce qui s'était passé. En gros, on fait de Steve Rogers un fils d'ambassadeur qui s'est engagé après la mort de son frère, tué à Pearl Harbor, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, tout un truc assez étrange pour quelqu'un qui aujourd'hui connaît les films ou les Captain America. Il dit, ah bon, il y a eu ça, oui. Et du coup, dans le dernier épisode, avant l'arrivée de Stern et Byrne, il y a justement le fait que cette origine-là, en fait, vient de faux souvenirs. Et que Steve Rogers, en fait, récupère ses vrais souvenirs, mais avec un espèce d'amalgame où il ne sait pas encore trop qu'est-ce que le vrai du faux. Et du coup, le premier épisode et aussi ces premiers épisodes-là sont aussi destinés à se dire, bon, allez, on va faire un travail, on va prendre ce qui est bon, on va reposer bien le truc, quoi. Et c'est super fort parce que, comme tu dis, les premières pages, tout se met en place. Enfin, il y a une manière de poser la place, donc dans ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est faux dans mes souvenirs, et on l'intègre dans le New York. C'est-à-dire que moi, la première page de Steve Rogers qui court sur Brooklyn, qui traverse la rue, qui fonce vers le mur pour entrer, tu reposes aussi Captain America dans un environnement urbain à fond. Et qui va être un peu, je trouve, un des leitmotifs de la série, c'est-à-dire vraiment comment. Enfin, dans la série, c'est Captain America court toujours dans New York et parcourt de la même manière que Spider-Man parcourt la ville, mais avec ses toiles et en voltigeant. Là, c'est il fait du, comment on appelle ça, du parcours, quoi. Tu vois, il saute, il grimpe et tout, et tu vois une géographie de la ville incroyable. C'est vraiment, voilà, les 2 premières pages déjà, ça t'annonce tout. Enfin, tout. En tout cas, ça te capte tout de suite, quoi.
Ouais, et puis on dit pas ça souvent sur Byrne, mais il a cette capacité justement à dessiner un environnement qui est complètement adapté au personnage dans lequel, enfin, qui l'utilise. C'est-à-dire, il va pas dessiner les mêmes décors pour Captain America qu'il utilise pas les mêmes décors qu'il y a
Oui.
dans X-Men. Ou qui va utiliser dans les Quatre Fantastiques. Son New York n'est pas le même que le New York qu'il va utiliser dans les Quatre Fantastiques. Où tu vas être
Ouais,
dans d'autres
totalement.
quartiers, tu vas être dans les Captain America, il est très terre à terre, ouais, il est très dans des quartiers, on va dire populaires, quoi. Enfin, très très urbain, puisque il y a cette super séquence là dans l'épisode où juste avant d'aller en Angleterre combattre le Baron Blood, il arrête un vol de spiritueux. Un braquage, et tu vois que c'est dans une ruelle un peu pourrie, et franchement, c'est ouais, effectivement, l'ancrage de Rubinstein y est pour beaucoup, si on en parlera,
Totalement.
mais l'ancrage de Rubinstein, il donne vraiment une assise réaliste. Il y a un côté un peu direction photo, enfin, vraiment quelque chose d'assez qui donne quelque chose de concret. Et qui contrebalance bien en plus le côté un peu cartoony des fois des dessins de John Byrne, très dynamique. Donc en fait, l'alliance des deux, ça fonctionne super bien. Et pour en revenir à cette idée ouais, de souvenirs, de faux souvenirs implantés, on a déjà en fait ce qu'ils vont faire avec Wolverine. C'est-à-dire Wolverine, il va s'apercevoir que pareil, dans les années 90, on en parlait avec Larry Hama, il a des souvenirs qui sont implantés par les organismes, les organisations gouvernementales qui l'ont utilisé. Là, c'est en gros ce que Stern explique, c'est que l'origine que Steve Gerber lui avait donnée 2 ans auparavant, en fait, c'est des faux souvenirs que le gouvernement a implanté au cas où, durant la Seconde Guerre mondiale, il se fasse capturer par les nazis, que les nazis le torturent. Et donc, c'est, en gros, c'est des fausses infos. Voilà, c'est des fausses infos à donner au
contre-espionnage.
Au contre-espionnage, enfin, à l'espionnage nazi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand ils vont révéler les vraies origines de Wolverine, en gros, autant dans Stern et Byrne, dans Captain America, ils te disent « Ouais, non, non, en fait, cette origine-là, elle vous paraît complètement débile, l'origine où son frère est à Pierre Larbourg, il est fils d'ambassadeur. C'est vraiment trop compliqué, trop... Nous, on vous raconte la vraie... Et c'est vrai que quand j'ai lu les épisodes-là, je pense que ça vous avait fait la même chose, mais tu dis « Ouais, c'est évident que Captain America, c'est un mec qui vient des bas quartiers de New York, voilà, qu'il a été élevé par une mère célibataire, son père il est mort d'alcoolisme, enfin bref, il a vu une vie de merde, quoi. Il n'a pas eu une vie privilégiée avant de devenir Captain America, quoi. Et tu te dis, c'est vraiment cohérent en fait avec ce que tu connais du personnage et de la façon dont le personnage est élaboré. Et quand ils ont fait les origines de Wolverine, en fait, t'as exactement l'origine bidon qui est à l'inverse de ce que tu pensais. Toi, tu pensais que... Enfin, je sais pas, Wolverine, moi, j'imaginais son passé, j'imaginais que c'était un trappeur, tu vois. Vraiment. Et en fait, non, il t'explique que non, c'est un fils de riche. Ouais, voilà. Et c'est là où, en fait, tu vois aussi tu vois aussi le décalage entre eux. Et là, je reviens à ce que Ringside et toi disiez lors à propos de Stern sur Spider-Man, que Stern, quand il écrit Spider-Man, t'as vraiment l'impression que c'est Spider-Man. Enfin, tu remets pas en cause ce qu'il fait, en fait. Il fait jamais des trucs incohérents. Et pour moi, il y a la même chose avec Stern et Byrne sur Captain America, où en fait, tout ce qu'il fait dans les 9 épisodes et tout ce qu'on t'explique sur le personnage et sur le... C'est hyper cohérent avec le... Ils n'ont pas besoin de tordre le personnage pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Au contraire, en fait, ils créent leurs intrigues, en fait, autour de ce personnage qu'ils ont l'air de connaître, comme Stern connaît Spider-Man, comme Byrne connaît les 4 Fantastiques. C'est-à-dire quelque chose de vraiment cohérent. Et je pense que ça vient du fait que ce sont des auteurs, où on parlait de Micheline et Leighton sur Iron Man, c'est des auteurs en fait, qui ont grandi avec les premiers épisodes, en fait, en gros avec les épisodes des années 60 des 4 Fantastiques, les épisodes des années 60 d'Iron Man et les épisodes des années 60 de Captain America, même si Captain America il était élevé créé dans les années 40. Plus ou moins, il est recréé dans les années 60. Et le Captain America tel qu'on le connaît, c'est plus celui qui arrive dans Tales of Suspense. Et le fait d'avoir des auteurs qui, jeunes, ont grandi avec ces personnages-là, en fait, ils se les approprient. Et du coup, quand ils te les restituent une fois adulte, en fait, tu te dis, effectivement, c'est le Captain America, c'est le Iron Man, c'est les 4 Fantastiques. C'est pas une autre version. Et c'est ce qui rend ces épisodes... passionnant. D'autant qu'en plus, ils lui font affronter des personnages qui sont complètement, comme tu dis, hors de sa zone de confort. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin en fait de ressortir le Red Skull. Ils n'ont pas besoin de ressortir pour la deuxième fois, je sais pas qui. T'as pas MODOK, t'as pas
le Baron.
Le Baron von Strucker, c'est parfait, parce que le Baron von Strucker, tu dis, on va se retaper le Baron von Strucker, et puis en fait, non.
Non.
c'est complètement...
Mais en plus, c'est super bien fait, parce que ça sort de la zone confort, c'est pas illogique, c'est super bien, c'est pas genre, on te balancerait pas Captain America face à Annihilus, tu vois, quand on te le balance sur, par exemple, ma Machine Speed, justement, on te le fait introduire par Strucker, et puis ça amène une intrigue qui est super dans le ton, parce que quand tu découvres la réalité du plan de Machine Speed, qui en gros, en fait, c'est un personnage qui est devenu cybernétique, à cause de la propre programmation qu'il a fait de ses robots et que lui-même est mort, et qu'en fait, il recherche la mort, donc il fait comment je peux me faire tuer parce qu'on m'interdit de mourir, et il arrive à manipuler Captain America pour ça. Enfin, il y a un truc hyper dramatique qui fondamentalement est très fort avec le personnage. Et de la même manière avec Mr. Hyde, c'est super parce qu'on t'oppose un fou total. Enfin, Hyde, c'est quand même un taré de première. Face à Captain America, ça marche déjà bien, mais on te rajoute Batroc qui est aussi un de ses pour le coup, c'est un personnage vraiment de la galaxie Captain America. Et le mélange des trois est super. Et moi, quand j'ai relu d'ailleurs les épisodes, je me suis dit, mais putain, Batroc, c'est quand même dommage contre le... Il y a du bois pour en faire, pour le travailler, pour aller dans une espèce de code. Il y a un code de l'honneur chez Batroc qui, à la fois, c'est un coquin, c'est un mercenaire. Enfin, le mec, c'est un Arsène Lupin, tu vois. Et je me dis, putain, j'ai pas souvenir d'un travail. Alors, j'avoue, avec Grunwald, je connais assez peu, beaucoup de périodes de lui. Mais je me dis, putain, là, j'avais envie de me dire, putain, j'écrirais bien sur un Batroc qui irait plus vers le héros et tout ça, tout en essayant de le garder des spécificités. Mais putain, ça fonctionnait bien, le duo Batroc-Captain America, tu vois, pour le peu que ça a fait de quelques pages.
Il utilise bien Grunwald dans une... Il y a un arc qui s'appelle The Bloodstone Hunt, où c'est une équipe de mercenaires. En fait, c'est en gros, il s'est fait son kiff Captain America en Indiana Jones. C'est-à-dire que Captain America et une bande de mercenaires sont à la recherche de la pierre Bloodstone, la pierre de Ulysses, Bloodstone. Là. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en gros, c'est les aventuriers de l'Arche perdue. Quoi. Ils vont dans des pyramides, il y a des pièges. Et Batroc fait partie d'une équipe de mercenaires. Et tu vois qu'effectivement, il y a toujours ce... Grunwald, il maintient plus ou moins le respect entre les deux. Mais c'est vrai que généralement, quand tu le ressors, c'est les vieilles vannes sur les Français. Et puis, ça ne va pas...
Alors, c'est vrai qu'il a jamais été...
j'aime bien son run. Mais par exemple, quand il fait intervenir Batroc, c'est un combat avec OK. Et en fait, OK n'arrête pas de faire des blagues sur Pépé le Putois et sur...
Et pour le coup, là, tu avais vraiment quelque chose, ce côté justement de te dire, OK, Batroc, c'est un ennemi de Captain America, mais il a certaines limites qu'il ne franchira jamais.
Ah, j'adore que le personnage à cause de ces épisodes-là,
Oui, il n'a jamais été aussi cool que dans ce run-là.
Ouais.
Et moi, je le mettais du coup très haut dans l'univers Marvel pendant longtemps.
Batroc, avec son assistant.
Monique.
Et ses petits pièges à la James Bond, là.
Ouais, c'est trop bien. Et justement, il est jamais ridicule. Il est jamais ridicule en fait. De toute façon, chez Stern, il n'y a personne qui est jamais ridicule.
Même quand il prend
des personnages qu'on lui impose, on lui a quand même imposé Star Fox et il n'est pas ridicule. Non, c'est...
Ouais. Non. Il faut le faire, ouais.
C'est un peu.
Il y a cette scène énormissime dans ces deux petits épisodes là qui tournent autour de Mr. Hyde et Batroc où Captain America est enchaîné au bateau. Et où il doit réussir à péter les chaînes, ça c'est des trucs. Ça c'est toute la mise en scène de John Byrne de tension qui rappelle un peu le passage mythique de Spider-Man là, par Ditko où il soulève l'immeuble qu'il a sur le dos. Quoi.
Ouais. Je me souviens d'un épisode aussi de Captain America de Parcel Buscema où il est sur un toit et en fait il a une potion à prendre parce qu'il vient de se faire empoisonner par un des membres de l'escadron de l'escouade des serpents là. La vipère il doit choper l'antidote et c'est pareil, c'est hyper long et tout. Je me demande s'il avait ça en tête aussi parce que j'y ai repensé en relisant effectivement j'ai aussi flashé sur la séquence là et ce qui est bien en plus c'est qu'en parallèle tu vois il s'imagine les conséquences de l'explosion atomique super, et tu vois à un moment donné l'appart de ses voisins qui est pris dans le feu, ça fait un peu... Je me demande si Cameron a lu ces épisodes, parce que ça fait très Terminator 2, tu sais.
C'est ça. Tu retrouves vachement ces effets-là. En plus, on arrive dans cette période justement des années 80 où tu commences à vraiment avoir cette trouille du nucléaire et tu revois aussi cette... toi, cette scène, tu la revois dans le téléfilm, là, ce double téléfilm qui était sorti en 84 ou 85 qui s'appelait The Day After. Qui est un téléfilm de Nicolas Meyers sur une attaque nucléaire sur le sol américain, donc suite à un conflit entre Russes et Américains. Et tu as la fin de la première partie tu vois vraiment la bombe atomique exploser sur différentes villes et tu vois les gens mourir. Enfin, tu vois des images affreuses et tu retrouves. Enfin, pour le coup, ces images-là, je serais pas étonné qu'elles aient inspiré quoi. C'était vraiment. Tu retrouves. Enfin, déjà avec cette image-là plus les épisodes aussi de fin là, en Angleterre, t'as aussi toute cette proportion que Byrne a avec Stern à l'horreur. J'aime bien cette manière qu'il a de partie touche ou vraiment par épisode, mais pour là, il y a toujours un coin de page où tu te prends une mandale bien horrifique, bien flippante, et ça fonctionne super bien avec Cap, quoi, encore.
T'as vraiment un peu l'idée d'à chaque saga de changer un peu le ton de la série pour taper dans différents genres. Trucs plus urbains, du fantastique gothique à la fin, du truc un peu à la James Bond avec les Batroc et
C'est carrément Mister Die Hard. C'est Die Hard avant l'heure, hein, en fait.
Mais c'est ça.
Un peu tout ce qui va arriver avec Under Siege, Subit, ce genre de... Ouais. Où t'as un lieu clos, ils sont sur ce pétrolier là, et puis il faut absolument neutraliser le méchant avant qu'il fasse tout péter.
Et c'est vrai que le côté derrière, tu le retrouves dans cette manière qu'il a de faire jouer Roger avec la ville, quoi. C'est vraiment un des runs où vraiment personnage et ville fusionnent vraiment. Où t'as vraiment à chaque fois qu'il se balade, j'avais l'impression d'avoir la géographie de la ville. Et puis t'as cette manière de poser des bâtiments, puis les lieux. Enfin, l'immeuble de Roger, tu vois, j'aime bien. En plus, t'as des fins d'épisode où il te fait le plan de l'appartement. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que t'as ce côté de croire vraiment à ça, parce que beaucoup d'épisodes où dans les histoires quand Roger se balade, en fait, ils font pas d'ellipse entre deux scènes. Roger et enfin Cap est dans la rue et le truc se finit, il fait bon allez on va voir ça, je vais enquêter, puis deux heures après le voilà au manoir des Vengeurs. Non, entre les deux tu vas le voir se balader pour aller au manoir des Vengeurs par exemple, essayer de faire ça. Souvent tu vois ce passage là de parcours dans la ville, et j'aime bien parce que c'est vraiment comme si on voulait que Captain America se réapproprie la ville. Après un moment où on l'avait un peu. Il y a une manière, tu sais, c'est toujours Cap, c'est toujours un personnage qui est idéalisé au sein même de son univers. C'est-à-dire que c'est vraiment. Quand t'es face à Captain America, c'est pas comme si t'es face à Spider-Man, tu vois. C'est vraiment le personnage idéalisé au sein de l'univers, et donc toi en tant que lecteur, seulement là, ils arrivent vraiment à lui. Non, en fait, c'est aussi un homme. Ça peut paraître un peu idiot, mais il t'arrive à te dire non, en fait, c'est un homme
avant tout. Voilà. Avec des besoins,
avec des besoins et des envies. Ça. Et des drames. Bon, en fait, il arrive à trouver le juste milieu en gardant l'aura, mais tout en faisant se dire ouais, mais en fait il existe vraiment. J'ai du mal à bien vouloir dire ce que je veux dire.
La séquence où il arrête le vol de spiritueux, c'est quand même, il arrête le mec sans rien faire. Simplement il se pose devant le type et il dit de toute façon t'auras aucune chance contre moi, allez donne-moi ton arme, et le type lui donne l'arme alors qu'il peut tirer à bout portant sur Captain America.
C'est
pas un truc que t'aurais avec Spider-Man, quoi.
Non, exactement.
Alors ça, c'est trop une séquence années 80, hein, le truc du
le
fusil.
Pour moi, c'est la réponse un peu à Eastwood, enfin à Sigel Eastwood pour Inspector Harry, tu sais, l'Inspector Harry qui demande à l'autre combien t'as tiré, enfin tout ça. Et là, il y a un côté plus pareil. Enfin, je recule pas, je tourne pas, je me fous pas mon bouclier. Par contre, je vais te tendre la main à la fin. Et ça, je trouve ça. C'est parfait, quoi. C'est vraiment ce qu'est Captain America aussi.
Ouais, et c'est un leitmotiv aussi dans la saga, qui est que... Parce que t'as le fil rouge des souvenirs, mais t'as aussi le fil rouge de Captain America, en fait, la question de prendre une vie ou pas. Parce qu'il est souvent confronté à... Il est confronté à ça avec Machine Smith, et il est confronté à ça avec le Baron Blood. Parce qu'avec le Baron Blood, il est obligé de le décapiter, quoi.
Tout à fait.
Et la question de savoir, en fait... Lui considère de sauver les gens comme la priorité. C'est une bonne, je pense que c'est un bon run à faire lire à tous les les scénaristes qui pensent que Captain America, c'est un soldat, donc il doit tuer des gens. ce qui n'est pas du tout... le corollaire est un peu problématique. Mais en plus...
si t'es un soldat, t'es un assassin.
Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas fait de service militaire. Et moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas non plus... tu te renseignes un peu. Et je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant. En fait, la fibre morale du personnage, elle est traitée dans toute le tous les épisodes. Alors que ce soit frontalement avec justement cette idée avec Machine Smith, en fait, est-ce qu'il doit débrancher ou pas, qu'il y a un peu un truc sur le l'euthanasie. Et en biais avec ce qu'on racontait sur Batroc et sa morale, où en fait Batroc, il sait que en fait il appelle Captain America à la rescousse en gros en le faisant en convainquant Mr. Hyde de le prendre comme monnaie d'échange pour le chantage qu'il fait à la ville, et parce qu'il sait aussi qu'ils ont le même code de l'honneur qu'ils ont un code de l'honneur qui est similaire avec avec Captain America. Donc ça, c'est intéressant, en fait. C'est tu définis un personnage, mais par le biais de son ennemi, qui est aussi quelque chose de plutôt que de faire un gros monologue du personnage.
Ouais, tu expliques tu es dans les aboutissants.
Tu le fais par un biais détourné.
Et ça, c'est très fort parce que c'est très pour le coup. Je me faisais la réflexion il y a quelques temps. C'est très marvelien la définition des personnages par leur code de l'honneur et par leur sens moral. Il y a quelques jours, on me demandait un peu des trucs sur les gardiens de la galaxie. Et de fil en aiguille, je me faisais dire, mais en fait, ce qui est génial avec les gardiens, mais Cap et tout ça, et au final, les personnages peut-être Marvel, c'est que c'est des personnages qui sont souvent en dehors de la loi, mais qui ne sont pas hors la loi, qui en fait font le pas de côté. Et surtout, agissent toujours selon un code moral ou d'honneur qui n'est pas forcément en opposition à la loi, mais qui n'est pas forcément aussi la loi est stricte. Et typiquement, c'est Spider-Man, où Spider-Man est considéré quand même comme hors la loi par les flics, mais toi, en tant que lecteur, quand tu vois ce qu'il fait, non, il ne l'est pas. Mais par contre, il agit selon son propre code moral et d'honneur, ce que fait Captain America aussi ici. Et c'est aussi très, très Marvel. Je n'ai pas l'impression que d'ici... j'aime pas faire ce genre d'opposition, hein, et vraiment, c'est pas qualitatif. Mais j'ai toujours eu cette impression de DC de personnages plus dans la loi, bon, en dehors de Batman, mais qui est là. Chez les personnages malades, j'ai toujours cette impression, peut-être parce que c'est des personnages des années 60, qui sont nés déjà dans un contexte où tu... Voilà, qui joue là-dessus. C'est pour ça que la comparaison avec DC peut rapidement pas tenir, mais du fait de leur naissance sur les personnes marvéliennes, je trouve que c'est assez fort, assez ancré.
En fait, je pense que ça vient effectivement de la façon dont les persos ont été créés, parce que Superman et Batman, au tout début, c'est vraiment des hors-la-loi.
C'est vrai. J'avais oublié pour Superman, les premières années de
création. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très vite, comme les éditeurs de comics sont pris à partie par des associations parentales, ils sont obligés, et en fait, DC est le premier à faire un code interne d'autocensure. Et c'est à partir de là que Batman arrête de tuer, Superman arrête de tuer. Et qu'en fait, on décide que les vilains ne sont plus tués. Et c'est très rapidement, c'est 40-41. Et c'est quand ils sont pris à partie par des associations parentales. Et qu'intéressant aussi, c'est que quand ils recréent des personnages dans les années 60, Barry Allen, il est policier. Al Jordan, il est pilote. Hawkman, il est policier. C'est tous des gens qui sont un peu établis dans le statu quo, de manière... à amener quand même en fait l'idée que ils agissent en dehors de la loi, mais c'est plutôt des personnages assermentés. Batman à l'époque, il est policier honoraire, quoi. C'est dans 42-43, en fait, il devient policier honoraire de Gotham City, et c'est très utilisé dans les années 60 pour justement se couvrir. Et Marvel, ce qui est intéressant, c'est que les deux premiers personnages, t'as Namor qui est contre l'humanité, qui est parce que la civilisation fait n'importe quoi, pile les océans. Et la Torche humaine, c'est un androïde, et au départ il fait peur, en fait, parce qu'il il contrôle pas sa flamme, et donc il est pourchassé. Et après il devient flic, en fait, Jim Hammond. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as ces deux personnages, et Captain America, bon, c'est un soldat, et puis c'est créé dans le contexte de la guerre, donc il y a encore autre chose. Mais par contre, dans les années 60, ouais, effectivement, ils reprennent un peu le côté monstrueux que tu as déjà chez Namor et la Torche Humaine, c'est-à-dire les quatre fantastiques, dans les premiers épisodes, ils sont pourchassés par l'armée, à un moment donné. Le Hulk est pourchassé tout le temps par l'armée, Spider-Man est pourchassé par les flics, les X-Men, ils sont détestés. Voilà, le Silver Surfer, dans Warlock, dont on parlait, voilà, c'est des personnages qui sont, ouais, il y a un côté un peu contestataire chez Marvel, mais avec toujours effectivement ce code de l'honneur qui fait que, en fait, voilà. c'est les auteurs, ils ont déjà pensé en fait au-delà de ce que les critiques disent aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'ils représentent le statu quo, est-ce que ça représente des gens qui sont dangereux parce qu'ils prennent la loi entre les mains. En fait, ils ont déjà, t'inquiète, les mecs, ils ont déjà réfléchi à ça dans les années 60. Et en fait, si c'est la raison pour laquelle les gamins, ils adorent les comics de super-héros et surtout ces histoires-là, puisque c'est les histoires qu'on transpose dans les films, c'est que ça a déjà été réfléchi à la base, t'inquiète pas.
On découvre pas l'eau
tiède. Qui va inventer l'eau tiède.
On va pas inventer l'eau tiède. Mais encore aujourd'hui, moi j'ai vu là l'Humanité Magazine qui titre sur les super-héros. J'ai regardé en vitesse l'article, qui fait pas du tout. On peut compter sur l'Humanité Magazine pour être. Pour pas faire dans la généralisation à outrance. Donc, il t'explique que le super-héros, c'est le symbole de l'individualisme américain.
Ah, bah oui, forcément.
Mais après, tu lis l'article, c'est sur les films. Tu vois,
parce qu'il y a ce prisme complètement. C'est plus compliqué de lire les livres.
Et d'essayer d'expliquer, par exemple, que Captain America, ça a toujours été un comics plus progressiste que conservateur, ça par exemple, déjà, c'est quand tu commences déjà à expliquer ça à des gens, les gens te regardent avec des grands yeux parce qu'ils comprennent pas en fait.
Totalement.
Le personnage, c'est un patriote, donc ça peut être que un truc de droite.
La complexité.
D'ailleurs,
pour simplifier, il faut caricaturer pour que les gens comprennent.
Et d'ailleurs, tu le vois parfaitement dans l'épisode 250, quoi. Dans l'épisode
l'épisode de présidentiel, oui, c'est vrai.
De la présidentielle, voilà. C'est la réponse est là, quoi.
Parce que là, maintenant, ils ont fait le président. C'est une saga, hein, comme ils ont fait...
Ce qui est intéressant, cet épisode, au départ, ça devait être un... En fait, en gros, ce qu'ils expliquent, Stern, c'est que Don Perlin et Mackenzie voulait faire une saga où Captain America devenait président en fait en 80 et puis que ça durait et en fait qu'il était président des États-Unis. Steve Rogers était président des États-Unis et il agissait entre Captain America et Stern qui était l'éditeur a foutu le projet à la benne en leur expliquant non, on peut pas faire ça en fait, on peut pas en fait, c'est trop compliqué, ça ne correspond pas au personnage. Et en fait quand Stern est devenu scénariste, Shooter lui a dit pourquoi est-ce que tu fais pas un épisode pour expliquer ton point de vue par rapport à cette demande. Donc Perlin et Mackenzie sont remerciés pour l'idée de départ et tu as tout un épisode qui t'explique où t'as... Et l'épisode en fait c'est intéressant parce que tu as l'impression que ça énonce une évidence mais c'est vraiment bien fait, en fait, je trouve. C'est un épisode où il n'y a quasiment pas d'action. À part le début où il empêche une prise d'otage dans justement le QG du parti indépendant qui va essayer de le convaincre, en fait. Donc, c'est un troisième parti, c'est un parti indépendant. C'est un parti qui essaie de présenter un candidat à la présidence de 80 qui ne soit ni républicain ni démocrate. Et... Le directeur de campagne dit mais de toute façon on est en train de faire des primaires entre deux mecs qui ressemblent exactement à des républicains et des démocrates en fait. Il faut penser en dehors du moule, il faut quelqu'un qui vient de l'extérieur, il faut quelqu'un qui vient de toutes les conneries qu'on entend aujourd'hui. Et ils se disent pourquoi pas Captain America puisque Captain America il symbolise le pays donc voilà et puis c'est un capitaine, c'est un chef, tu vois. Et en fait, quand ils expliquent ça, en fait, tu vois que Steve Rogers, il se trouve ça complètement débile. En fait, il dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de moi ? Enfin, ça marche pas comme ça, en fait. Et le discours qu'il tient, c'est très intéressant parce qu'il dit mais en gros, si vous voulez que le pays fonctionne bien, c'est vous commencez par le faire fonctionner. Faut pas attendre que quelqu'un vienne faire tout le boulot à votre place. Arriver comme un messie et tout. Enfin, c'est parfait aujourd'hui avec le mythe de l'homme providentiel et le fait que bon, nous on est coincés hein, pendant 5 ans avec avec un forcené. Bon, fait, mais...
voilà. Je vous avais parlé de l'enfilade, voilà.
Mais donc, mais vous savez pourquoi ça pique. Mais c'est parce que ce genre de comment dire, ce genre de situation, elle est voulue par les gens à la base. Parce qu'on a tellement mis dans la tête des gens qu'il fallait que tout soit entre les mains d'une même personne et que cette même personne, c'est elle qui allait faire la pluie et le beau temps, que maintenant, ben, voilà. Et ce qui est intéressant avec l'épisode là, c'est que ils parlent sur un point de vue. En fait, ils ont un personnage qui est à la fois un symbole et en fait un vrai personnage, parce qu'il a une vraie vie, Steve Rogers, en fait. Et ça, dans sa vraie vie, il est dessinateur, il n'est pas du tout politicien, il n'est pas du tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a, moi j'ai les épisodes originaux, donc il y a les courriers des lecteurs. Et il y a un débat dans le courrier des lecteurs, puisque tu rappelais un peu la situation politique et historique des années 80. Et notamment, on est avec la guerre froide et avec la montée du terrorisme aussi. On a la guerre, on a le problème aussi des otages à l'ambassade en Iran. Des otages de l'ambassade américaine en Iran. Et dans le courrier des lecteurs de Captain America, à l'époque, il y a un débat sur est-ce que le comics de Captain America doit refléter ces événements-là, doit parler de ces événements-là, ou est-ce que, au contraire, ça doit être plus dans l'évasion, dans le monde Marvel tel qu'il est. Et tu vois que c'est très partagé entre les lecteurs, parce qu'ils font un sondage et tout ça. Et Stern, lui, il prend acte du fait là, de ce fait, et en fait, il explique, il dit « Moi, j'ai des convictions politiques, mais je vais, comment dire... Moi, je préfère parler par métaphore en fait dans mon comics, et je préfère en fait que cette série ne soit pas en fait je vais pas faire de Captain America mon porte-parole en fait pour mes idées politiques. Et il dit voilà, il a sa propre identité, sa propre personnalité. Et moi, je vais pouvoir parler de choses, mais je vais en parler de façon détournée. Et voilà, je trouve que c'est assez brillant quoi dans la manière de...
Bah c'est humble en plus.
C'est humble et c'est ce qui fait que les épisodes, tu peux les relire aujourd'hui. Tu vois, à part la mode de l'époque, le reste.
Je pense qu'on est sur le point névralgique de qu'est-ce qui fait la richesse des Marvel Comics. C'est précisément parce que les problèmes politiques et la scénarisation des comics est vue de ce point de vue-là, en prenant en compte comment ton personnage est placé. Dans tous les dilemmes qu'il peut avoir moraux, politiques, tout en gardant à l'esprit l'actualité. Et c'est ce qui apporte, je pense, la richesse aux comics Marvel. C'est pour ça qu'on les relit encore à l'heure actuelle, passé un certain âge, parce qu'il y a toutes ces richesses qui existent dans ces comics-là, qu'on ne trouve pas forcément dans les autres productions franco-belges, ou sans... Toujours sans dévaluer ce qui se fait à côté. Mais quand on se demande, parce qu'on voit maintenant passer beaucoup de gens, ça devient la mode de critiquer Marvel. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'essence des Marvel Comics, je pense que là, quand on explique ça et qu'on voit toute la richesse que peut avoir une saga anodine à la base de Captain America dans les années 80, qui est sur 5 épisodes, publiée sur des fascicules... bon marché, qu'on réédite maintenant dans des œuvres cartonnées, etc. C'est parce qu'il y a cette richesse-là dans la construction des sagas. Ouais. Alors effectivement, tout ça, ça fait partie d'un grand tout. C'était des choses feuilletonesques qu'on ne retrouve plus maintenant, mais c'est bien pour ça, et pas juste parce que c'est des combats de super-héros, parce que ça retranscrit les archétypes, là, comme on dit, voilà, Captain America, c'est un patriote.
Ouais, Iron non, Man, non, non, c'est non, pas du tout
y a,
ça.
Il y a beaucoup plus que ça derrière.
Ouais,
c'est,
ouais. De toute façon, tu ne deviens pas accro aux comics. Très honnêtement, tu ne deviens pas accro aux comics de super-héros uniquement pour les combats et uniquement pour cette question d'archétype ou de quoi que ce soit. C'est un mélange, en fait, d'inventivité des scénaristes, de vraiment de grosses qualités d'illustrateurs, des dessinateurs. qui est de pondre de la page et de trouver en fait des astuces narratives et des astuces visuelles pour que ce soit, tout soit toujours dynamique, que tu n'aies pas l'impression de relire 400 fois le même numéro. Et ça, mine de rien, en fait, d'arriver à rendre à faire de la production mensuelle, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a cette idée aussi que ben, t'es attaché au personnage et à leur univers, quoi. C'est le personnage de Steve Rogers, ben, il est plus sympathique que si on l'avait fait comme un parangon de vertu et de un porte-parole de, enfin, si c'était Captain Planet, tu vois, si à chaque épisode, à la fin, t'avais une morale de blablabla. Ce qui est un peu, d'ailleurs, le scénariste d'après, qui est de Matéis, qui tombe un peu là-dedans, je trouve, par moment, où il a Captain America qui passe par des espèces de placards de dialogue où il fait la morale à tout le monde. Et je trouve que c'est, en plus, avec un point de vue un peu vieillot, parce que je trouve que de Matéis, il ne comprend pas trop le perso, en fait. Il en fait un type un peu ringard. Là, ce que j'aime bien aussi avec Stern, je finis juste là-dessus, c'est que ce que j'aime bien quand il décrit Steve Rogers, c'est que c'est effectivement, c'est quelqu'un qui a des goûts anciens, mais c'est quelqu'un qui a des goûts anciens juste parce que, en fait, pendant 40 ans, il a été dans un bloc de glace. Donc, en gros, les trucs qu'il avait, c'est comme nous, quoi, quand on était... Il écoute les trucs qu'il aimait bien quand il avait 20 ans, tu vois, quand il avait entre 15 et 20 ans. Et quand il avait entre 15 et 20 ans, ben, c'est... les années 30. Donc, en gros, il écoute du big band, il écoute du vieux jazz, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas capable, en fait, de comprendre ce qui se passe dans la réalité moderne. C'est juste que ses goûts, ben, c'est ses goûts de quand il était gamin. Et quand il était gamin, ben, c'était les années 20 et les années 30. Quoi. Et ça, il n'oublie pas ce terme, tu vois. Il ne fait pas un mec, en fait, qui est coincé en fait, qui... Il ne fait pas un mec qui a... Comment dire, il a peut-être 80 ans en fait dans les faits, mais il n'a pas vécu 80 ans, il a passé 40 ans dans un bloc de glace. Donc c'est.
Et d'ailleurs, pour preuve, tu ne ferais pas un personnage qui serait soi-disant bloqué dans le passé, tu n'en fais pas un publicitaire, enfin un dessinateur publicitaire.
Ouais, tout à fait.
Le mec est dessinateur publicitaire là-bas, c'est qu'il sait capter la mode, le truc qui fera vendre un truc. Et ça marche en plus, il vend ses trucs. Hein. Et pour revenir aussi à ce que tu disais sur Captain America et revenir à l'épisode de la présidentielle, c'est aussi un épisode que j'aime beaucoup parce qu'il montre une des grandes qualités de Steve Rogers, enfin, quand on s'est mis à l'écrit, c'est que c'est quelqu'un qui va défendre ses opinions, mais c'est quelqu'un qui écoute d'abord avant tous les gens. Dans cet épisode-là, l'épisode, il est composé quand même de gens, que ce soit dans son privé, c'est-à-dire ses voisins, tous ses voisins qui disent à Roger leur propre point de vue, et Roger, lui, les écoute. Il va jamais dire son propre point de vue. Il va écouter, il va peut-être contredire deux, trois fois, il va poser des questions. Et tu retrouves cette scène, tu retrouves l'équivalent quand Cap, il est au manoir des Vengeurs, où tu as La Guêpe, Vision et Iron Man qui leur donnent leur propre point de vue, et tu vois, j'ai mis à trois points de vue vraiment différents, et de la même manière, il va les écouter, il va pas les contredire. Alors, il a un petit sourire moqueur, j'aime bien, je sais plus avec lequel des trois, où il a un petit sourire moqueur, je crois, parce que tu le vois, c'est super bien composé, en fait, tu vois son visage de face, et il est de dos, toi tu le vois de face, et tu vois l'autre personnage aussi de face, mais lui étant de dos, les autres ne voient pas sa réaction. Et c'est toi, lecteur, qui vois la réaction. J'aime beaucoup.
C'est quand La Guêpe lui dit de toute façon, tu vas faire un meilleur politicien. De toute façon, eux, ils ne connaissent rien en politique non plus.
Oui, c'est ça.
Donc, tu ne peux pas faire un plus mauvais job que.
Ta vision qui a le côté analytique. Et Iron Man, c'est quand même drôle. Iron Man, tu dis, mais arrête, c'est pas meilleur.
Chez Roger Stern, la vision, parce que.
C'est quand même pas mal. Et voilà, et lui il écoute en fait, finalement, le seul moment où il va dire véritablement ce qu'il en pense, c'est le discours de fin. Mais tout le reste de l'épisode, il écoute les gens, il pose quand même, il questionne, donc du coup il voit un peu les limites, notamment de dire, mais tu fais confiance à quelqu'un qui porte un masque. Et d'ailleurs, c'est très rigolo aussi d'avoir à ce moment-là La réaction de Jameson, qui est génial en, lui-même ayant le dilemme, parce qu'on sait très bien que Jameson, s'il y a un super-héros qu'il aime, c'est Captain America, et du coup il lui pose un dilemme, et c'est génial. Ça rejoint aussi ce que tu dis, c'est que même là on pose le dilemme, enfin on voit le dilemme de Jameson, et du coup il n'est pas ridicule dans ce dilemme-là, se disant j'aime ce personnage, mais par contre ce qu'il fait là, eh ben ça va contre mes propres idées quoi, et ma propre
la ma propre réplique est trop bon. Il dit s'il commence comme ça, regardez quand les stars d'Hollywood ils ont commencé à se présenter, ils ont tous voulu avoir un poste politique, et les super-héros vont faire pareil. On aura Mister Fantastic comme gouverneur, on aura Iron Man comme sénateur, et là t'as Robertson qui lui fait, on aura Spider-Man comme maire, Jameson qui part en vrille. Et t'as Robertson qui fait, bon, je crois qu'on va pas le soutenir.
Ouais. C'est super, mais en plus, je dis, quand tu sais que il y a donc 20 ans, on a Civil War, enfin, Iron Man qui est devenu carrément ministre, enfin, Jameson qui devient maire, pour le coup, enfin, à la limite, c'est un personnage, c'est pas un encapé.
Ça tient encore, je trouve, ça fonctionne.
Mais tu vois, pour le coup, tu vois, 20 ans après, bah, il se dit, tiens, on va faire peut-être ça, quoi. Iron Man, ministre, je crois qu'il est ministre secrétaire de la Défense à un moment, t'as des trucs qui fonctionnent pas au final.
Ça, à la rigueur encore, ça marche plus ou moins avec Tony Stark, parce que Iron Man, d'ailleurs c'est intéressant la réaction de Iron Man, c'est là où tu vois que Stern, il tient vraiment tous les persos. C'est que Iron Man, il lui dit, ouais, mais il faut faire gaffe les politiciens, parce que lui, il a eu des problèmes, dans tout le run d'Iron Man, en fait, les épisodes d'Iron Man, et notamment les épisodes où Stern était éditeur. Il y a ce problème en fait de lui, il a une technologie privée que le gouvernement essaye de mettre la main dessus. Donc il y a quelque chose de logique à ce que ça soit le personnage qui craigne un peu le gouvernement. Et si il peut avoir un poste au gouvernement, c'est secrétaire d'État à la Défense, parce que comme ça, au moins, il sait que personne n'essayera de mettre la main sur sa technologie. C'est lui-même qui la donnera. Donc c'est pas trop déconnant,
c'est pas logique,
mais effectivement il y a des fois où tu te dis, tu vois, quand t'as Wilson Fisk qui devient maire de New York, vous mettez n'importe qui maire de New York, tu vois, à partir du moment où ils ont mis Jameson maire de New York, tu dis ouais, n'importe qui peut devenir maire de New York. C'était bien une fois, mais c'est comme d'hab en fait, c'est bien quand c'est fait.
Oui, il ne faut pas que ce soit tous les 6 mois. Hein.
Pas
tous les personnages qui y passent. L'heure tourne, et on n'a pas parlé encore de la dernière saga qui tourne autour du Baron Blood et des envahisseurs, des anciens acolytes de Captain America, donc où Steve Rogers donc, va partir en Angleterre pour aider ses amis qui sont les victimes du Baron Blood. Alors, comme je disais, il y a une ambiance très film de la Hammer là-dedans. On est loin de New York, hein, pour le coup, avec une Angleterre un peu victorienne, comme ça.
C'est
postal, hein.
Pas le Londres des années 80, là, quand tu débarques, quand tu as l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps.
Donc il va dans le manoir de son ancien compatriote, enfin de son ancien allié des envahisseurs, le Union Jack, qui est lui grabataire, hein, en fin de vie, et qui a... on va essayer de lui trouver un remplaçant quand même, tout doucement. Il y a un remplaçant qui se peaufine, mais qui n'est pas celui qu'on croit.
Ouais, j'aime bien d'ailleurs la progression, en fait. T'as l'impression que c'est le petit-fils qui va prendre la place.
Ouais. Ouais.
En fait, c'est son meilleur pote qui dort avec lui.
Alors, moi, je t'avoue, c'est toujours cette période où j'adore comment on essaie de parler d'homosexualité sans le dire, parce que t'as le fait que quand il arrive avec son copain, et que t'as sa mère qui lui dit « Ouais, mais je sais pourquoi tu l'aimes pas, c'est parce qu'il n'est pas de la même classe que nous. » Et tout. Je pense que c'est peut-être pas ça, quoi.
Peut-être parce qu'on fait des matchs de lutte dans la chambre.
Tu sens que
très clairement, ils avaient été conçus pour être un couple. Ouais. Le, ah ouais. le, et que à la dernière minute ils ont dit non, tu veux pas nous mettre un dialogue où on comprend qu'il est avec la serveuse qui sert à rien
c'est vrai.
Parce que t'as le moment dans le pub où il explique qu'en gros elle est fiancée, il est fiancé plus ou moins avec avec cette nana là depuis des années, que
mais ouais, ils n'ont pas consommé encore, mais ça serait tardé.
Il va falloir qu'il aille causer avec elle un peu. Là,
tu sens très clairement que Joey et Brian Folsworth, c'était censé être un couple, parce que même dans les répliques qu'il a, Joey dit de toute façon. Il y a deux trois qui sont pas en plus graveleuses en fait, qui sont
non du tout.
C'est super bien fait, hein, c'est vraiment
bien fait. Et en fait, qui aurait été totalement logique en fait dans le amené dans le mais bon, ouais, c'était l'époque qui était, qui n'était pas ouverte du tout, et notamment shooter qui n'était pas du tout ouvert. Je trouve que là-dedans, c'est ça fonctionne du tonnerre, parce que ils prennent un perso dont tout le monde que plus personne n'utilise, et qui a une, où tu sens que les lecteurs, ils ont quand même une affection pour, parce que moi, quand ils ont utilisé le Union Jack, moi je trouvais ça cool, quoi.
On s'attendait à le revoir, on l'a plus jamais revu.
Le costume, il est classe et tout. Alors ils l'ont utilisé, mais ils l'ont utilisé chez Marvel UK, donc du coup il était un peu c'est dommage.
Et pour le coup,
parce que tu sens que s'ils étaient restés un peu plus longtemps, je pense qu'il aurait rejoint les Avengers ou un truc comme ça, tu vois.
Et d'ailleurs, Byrne le reprend quand il fait Namor. Quand la série Namor, Ian Jones réapparaît.
Il a un costume immonde. Super.
Non, je ne me rappelle plus. Tu vois, dans mon âge, je garde l'idée de l'ancien, tu vois.
Je ne sais pas, c'est un costume que je pense que c'est les mecs de Marvel UK qui lui avaient fait, mais il a une espèce de proto costume de Captain Britain.
Exact.
Il enlève tout le côté classe du perso qui était... Moi, j'aime bien le côté mystère, et puis avec le grand plastron. Et je crois que c'est... Brubaker l'utilise dans une des premières sagas de
Captain America.
Captain America de Winter Soldier. Et je crois, par contre, alors du coup, ils n'ont jamais utilisé le fait que ça pouvait être qu'il pouvait être homosexuel, parce que du coup, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en gros, il se met avec Spitfire quand elle rajeunit. Donc finalement, le problème de...
C'est beaucoup plus glauque.
Finalement, je me tape ta mère, tu sais.
Quand elle est revenue à 30 ans, elle s'est dit, la différence de classe, c'est pas si...
c'est pas si mal. Ça va, je peux me permettre.
Et leur tourne. Hein. Alors, il faut aller au dernier épisode qui nous raconte l'origine de Captain America, revue et corrigée par John Byrne, redessinée par John Byrne. Qu'est-ce qu'on peut dire, à part que c'était une claque claque visuelle, parce que de revoir tout l'historique redessiné par Byrne, c'est quand même quelque chose. Et puis, il s'appuie aussi sur les points qui nous font rêver, c'est-à-dire il y a toute son enfance qui est hyper dramatique. Avec sa mère qui tombe malade, etc. Alors, c'est tout ce que vous voyez dans le film, le premier film Captain America.
J'allais dire.
Les éléments
tout est là.
Et puis, la fascination sur le costume, le bouclier. On va nous expliquer pourquoi son masque change, pourquoi
il passe du
côté bouclier.
Voilà, c'est génial.
Le bouclier triangulaire, moi, j'ai toujours kiffé. Aimé le... D'ailleurs, le premier épisode commence avec le Captain America qui retrouve dans ses vieilles affaires le vieux bouclier et qui l'utilise. Bouclier triangulaire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est raconté par Franklin Roosevelt. Gros, la base de la caractérisation de Captain America par Roger Stern, en fait, il a dit qu'il avait lu énormément de bouquins d'histoire sur comment les gens vivaient à l'époque de la Grande Dépression. Il a beaucoup lu aussi sur la politique de Roosevelt, donc qui était une politique en plein d'essayer un peu de résorber la grande crise par des aides sociales. Je précise.
La social-démocratie.
Pour les gens qui votent aujourd'hui, pour des gens qui détestent les pauvres.
Macron, qui pense que nous écoute, va lire un peu de Roosevelt.
Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il prend ce personnage ce personnage réel, historique de Franklin Roosevelt pour raconter l'histoire de Captain America. Donc il arrive vraiment bien du coup à faire là encore coïncider l'idée de mythique et l'idée réaliste et le Marvel Universe, puisqu'on va nous expliquer toute la... Donc il explique notamment en fait la formule du professeur Erskine, donc la formule du super soldat, c'est un sérum et des rayons. Parce qu'en fait, il y avait eu deux versions en fait en bande dessinée. Ouais, une version où il buvait une potion et une version où il avait des rayons. Et en gros, Stern et Byrne, ils font les deux, quoi. Ils mettent les deux cases, c'est-à-dire qu'il prend une potion et après il s'assoit sur le siège pour absorber les rayons. En gros, ils disent que la potion, c'est un truc en fait qui va lui permettre d'absorber les rayons, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est que tu as un peu la séquence à la Superman de Richard Donner, où tu as la première sortie de Captain America. Et ça va de plus en plus vite, en fait, au fur et à mesure du. Donc, tu as la première séquence où il est à moto, il défonce des espions de la cinquième colonne qui veulent capturer un colonel. Ensuite, il va il retrouve en fait les commanditaires de la cinquième colonne dans leur QG, et puis il les défonce, il se fait prendre en photo. Ensuite, c'est des gens qui veulent saboter une usine, et en fait, ça va de plus en plus vite. En fait, au fur et à mesure, tu vois qu'il est de plus en plus efficace parce que tu vois de moins en moins les combats, et en fait, la dernière, c'est juste les mecs qui sont en train de poser une bombe, et d'un coup, tu vois l'ombre de Captain America derrière qui... Et ils expliquent que voilà, il a empêché l'explosion d'un barrage.
Il a fait le job.
C'est vraiment c'est super dynamique, alors que ça fait que 20 pages. Et il rappelle aussi que la création de Captain America se fait en fonction du Red Skull, du crâne rouge, qui devait être l'ennemi de la saga suivante, qui ne se fera pas.
Ouais, c'est ça qui est dommage.
Oui, pour être rapide, hein, Jim Shooter ne voulait plus de saga en trois parties.
Ouais.
Donc, il annule la saga qui était prévue, qui avait commencé à dessiner John Byrne, hein, avec le retour du Red Skull. Et du coup, ça ne va pas plaire à Roger Stern et John Byrne qui vont claquer la porte. Et ce numéro qui sera qui retrace l'origine de Captain America, ça sera leur dernier. Je crois que Roger Stern l'a même pas écrit celui-là, c'est juste John Byrne, non?
Non, c'est Stern qui l'écrit.
Il l'a quand même écrit. Ok.
Ah ouais. C'est Stern et Byrne qui.
Voilà, et c'est ce qui mettra fin à cette saga.
C'était un défi de Mark Gruenwald. C'est Mark Gruenwald en fait qui leur a dit tiens, pour les 40 ans, est-ce que vous ne voulez pas faire l'origine de Captain America? Et Sally Krupp, l'éditeur, explique que c'est toujours un bon plan en fait des épisodes d'origine parce que tu sais qu'ils vont être édités plein de fois et que,
Que ça va leur but, en tout cas, c'est l'origine définitive, hein, celui-là.
Ouais, voilà, exactement. Et d'ailleurs il y avait une particularité aussi, c'est que Byrne voulait que ces crayonnés ancrés que ça soit fait un peu à la mode années 40, c'est-à-dire directement ces crayonnés ancrés sur la page et et en gros ça n'a pas pu se faire, c'est ce que Robin Stein explique, lui aussi a ancré cet épisode parce qu'en fait il est repassé sur les crayonnés parce que sinon ils n'arrivaient pas à l'imprimer en fait.
Non, parce que je trouvais qu'il était quand même le dessin était un poil différent que sur
certains. Il est différent. Voilà. Parce que Robin Stein fait pas le travail vraiment d'embellisseur qui fait sur les.
Il réancre sur les crayonnés. Ils ont fait croire à John Byrne qu'il le ferait, puis ils l'ont pas fait. Pour pas gêner son ego.
Mais oui, Robin Stein, il dit que c'était compliqué de travailler. C'est pour ça que tu l'as pas revu avec Byrne. Il dit que c'était un peu compliqué de travailler.
Pourtant, c'est un super duo. Hein.
C'est dommage. Ouais.
Y a moins d'emphase sur les encreurs maintenant dans les productions actuelles. Mais Joe Rubinstein, c'était définitivement un encreur de grand talent qui était à la fois subtil et hyper efficace pour mettre en valeur le dessin.
Il crée un lien. Sur les X-Men, il a été l'encreur hyper longtemps, je trouve. Il faisait le lien vachement. De mémoire, il a été l'encreur quand justement Byrne est parti avec Tether Austin. Il faisait le lien justement au Cockrum et toutes ces dessinateurs avant que Paul Smith arrive. Et tu avais vraiment une cohérence visuelle hyper bien.
L'encreur de Paul Smith, non, c'est Wyatchek, l'encreur de Paul
ouais.
Smith.
Ouais, Check, ouais.
C'est Wyatchek.
Ouais. Hein, ça aussi, ouais. C'est un long nom aussi. Hein.
Mais Rubinstein, c'est lui qui en crée tous les personnages de l'encyclopédie Marvel.
Ouais. En gros, alors, si vous n'avez jamais vu l'encyclopédie Marvel, hein, c'est toutes les pages d'un super-héros avec une fiche détaillée des pouvoirs, la taille, le poids, leur origine. Voilà, avec un dessinateur emblématique qui dessinait la pin-up en quelque sorte du personnage. Et ouais, tout était ancré par Jerry Minstein. Ouais.
T'avais aussi les bâtiments, il te dessinait le truc. Il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de retrouver les. C'était sorti en France. Alors, on trouvait les fiches dans Strange Special Origin. Mmh. Et ils avaient sorti aussi des petites compilations. Là, ça s'appelait Marvel Universe. Ouais. Et actuellement, il faut lâcher 200 balles. Faut lâcher 200 euros au moins pour essayer d'avoir.
Pour en avoir une.
Les 6. Non, les 6.
Il y a trois omnibus qui sont sortis. Il y a le premier qui est la première version de 84. Il y a la deuxième version qui est la version jusqu'en 88. Et ils viennent de sortir le update 89. J'ai les deux. J'ai les deux premiers omnibus. Ouais. Et c'est une cure de jouvence en fait quand vous.
Ouais, ouais. Ouais. J'ai envie de dire là, Panini qui sort des omnibus à foison. Franchement, s'il pouvait, ce serait pas mal. Mais alors, je pense pas que ça fonctionne beaucoup un omnibus.
Le problème, c'est surtout que c'est faut payer la trad.
Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avais même pas vu ça. Oui, en effet, la trad elle doit être terrible à faire.
C'est pas la même chose que traduire.
C'est vrai, j'avais même pas pensé à ça. Pourtant, c'est assez évident. Ouais.
Mais on peut trouver, je pense, des traducteurs qualifiés pour ça.
Mais faut les payer.
Non, ce sera un beau cadeau pour Noël. Hein. Tu sors ça en septembre. Hein, tu peux être sûr que tu envoies une plâtrée pour offrir.
En tout cas, moi, j'achète celui-ci.
Ouais, clairement. Voilà, faut quand même qu'on parle des petits moments forts et des moments qui craint. Un peu, parce que maintenant, on a fait le tour un petit peu.
On n'a pas parlé de Bernie Rosenthal. On n'a pas parlé de la.
Ouais,
de la création.
Et si Kitty Pryde avait 30 ans, Bernie Rosenthal. Voilà.
Exactement.
Je la kiffe.
Ouais. Bah, je crois que tu as bien résumé.
Ouais, il n'y a pas mieux. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien Bernie Rosenthal. J'ai toujours
Bernie Rosenthal. J'adore.
Mais qu'il n'y a qu'eux qui l'ont bien utilisé. Donc,
Ouais. Mais d'ailleurs, toute cette partie où il essaye de se créer une vie privée, elle est vraiment très réussie, moi, je trouve. Les petites soirées qu'il passe avec ses copains, ses voisins et tout ça, dans des petites soirées à la cool, je trouve ça à la fois réaliste et à la fois consistant pour le personnage, quoi.
Ce que j'allais dire, là encore, ça permet de crédibiliser le perso et pas en faire juste un symbole patriotique. Quoi.
Ouais.
Et Bernie, moi je la trouve super. Elle a des bonnes réactions.
Oui, c'est sûrement le love interest le plus intéressant de toute sa saga. On aime bien Sharon Carter, mais elle est.
Moi j'aimais bien Diamondback chez Marvel.
Ouais, Diamondback c'était sympa aussi le fait qu'il s'approche d'une méchante.
Ouais.
Il a eu des love interest plutôt qualitatifs, hein, ce Captain America. Plutôt pertinent. Faudrait faire une émission sur les amoureuses des super-héros.
Les amoureux des super-héros. Non, les amoureuses de super-héros qui aiment les filles et les amoureux de super-héros qui aiment les mecs, même s'ils sont trois.
Voilà.
Qu'il y a Northstar dans le rôle.
C'est pour ça que le terme love interest est plutôt pas mal.
Ouais, c'est love interest.
Tout, hein.
Ouais.
On n'est pas obligé de genrer tout ça. Bon, un moment fort, un moment qui craint. Il y a beaucoup de moments forts. Hein.
Ouais.
Moi je vais en profiter peut-être pour parler de l'origine de Machine Smith quand il se réveille et qu'il est face au robot. C'est une séquence qu'on retrouve quand même dans Robocop, le premier, hein, c'est un peu la naissance de Robocop.
Ah, tu m'étonnes.
Il y a quand même ça. Je veux dire, dans Captain America, dans ce run là, t'as toutes c'est bizarre, mais t'as tous les grands passages des films. D'action qu'on a kiffé quand on était jeune, quoi, et des films à grand spectacle. T'as du Spielberg, t'as du Verhoeven, t'as du McTiernan, t'as tout compris dans le run, quoi. Et ce petit passage en particulier, En moment qui craint. Qu'est-ce qu'on a qui craint comme moment? Je ne saurais trop vous dire.
Aucun, moi.
Moi, franchement, pas trop, hein. Je ne l'ai pas trouvé.
Je ne sais pas. Hein.
Le plan, je suis en train de repasser les planches, là, et les pages, ouais, je n'en vois pas.
Si, le look de Machine Smith. Hein.
Mais ce n'est pas eux qui l'ont inventé.
Ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Ils font, faute, avec. Ils font avec. Et puis l'homme dragon, il craint un peu aussi, quand même. Mais...
Ah, moi, je l'adore, l'homme dragon.
L'homme dragon, c'est ton kiff.
Ouais, j'aime bien, moi.
Ouais, voilà. Bah, je sais
si
pas,
je devais avoir une peluche, je voudrais la peluche homme dragon. J'ai trop envie de me lever dedans, en fait. C'est pas. Mm. Écoute,
ouais, j'allais le passage. Vas-y, vas-y.
Non, vas-y.
Non, c'était ton moment qui.
Mon moment qui craint.
Ouais.
Faut que. Si, Lord Fatsworth, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein.
Ouais.
Qui débarque en chaise roulante dans son costume de. D'Union Jack, c'est un peu pathétique. C'est un peu trop pathétique à mon goût. Tout s'explique, c'est dans le scénario, mais l'image m'a traumatisé.
Moi, j'aime bien.
Jeunesse, je crois.
Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. De toute façon, j'aime bien le regard sur les vieux super-héros, qui à l'époque change complètement du regard que tu as.
Je trouve que c'est un peu un vieux connard, pour être honnête. Ouais. Il est fortement désagréable.
Tu vois, j'aime bien quand même la façon justement dont il pète les plombs, mais en fait, c'est lui qui a raison. Tout le monde le prend pour un vieillard complètement sénile, et le seul qui lui parle et qui dit non, mais en fait, il a peut-être raison, c'est Captain America. Mmh. Et c'est le seul qui lui dit non, mais il est peut-être vieux, mais ça veut pas dire qu'il a perdu toute sa tête, quoi. Et c'est intéressant. C'est là aussi, c'est un peu le super-héros la personnalité de Steve Rogers qui ressort. Moi, j'aime bien le regard qu'ils ont sur les vieux super-héros. J'ai l'impression que ça a influencé aussi Watchmen, parce que c'est la première fois qu'on voyait des super-héros vraiment grabataires. Parce que quand tu avais les super-héros chez DC du Golden Age, en gros, tout ce qu'ils avaient, c'était des tentes grises, quoi. Tu vois.
Ouais.
Mais sinon, la musculature est la même et tout. Et effectivement, là. Le moment où on voit Farnsworth qui est en chaise roulante avec son costume, en fait, il est tout maigre. Et Jacqueline Farnsworth, maintenant, elle est petite, puis elle a pris du poids. On n'a pas l'habitude de voir ça, ce que tu vas voir dans Watchmen. Et la mise en couleur de Bob Sharen aussi, moi, je trouve qu'elle rappelle un peu celle qu'on va avoir de John Higgins dans Watchmen, parce qu'il te fait des choses comme quand il va tuer le Baron Blood, et t'as les trois cases, et en fait t'as la couleur qui change complètement, tu vois, ça passe de...
Ah, c'est superbe, ça.
En fait, c'est le genre de couleur que tu vas retrouver dans Watchmen aussi. Je pense que Gibbons, il a dû voir quand même ces épisodes-là, Murray Gibbons, ils ont dû voir ces épisodes-là, parce que même la façon dont ils utilisent l'environnement de New York, la façon dont où c'est ancré, plus réaliste, je pense que ça a dû quand même... ça a dû influencer aussi.
Ouais, quand tu vois un peu la manière dont régulièrement dans la série, enfin dans les épisodes, les événements sont un peu commentés par les amis de Steve Rogers, ça fait un peu penser libraire avec
le micro-trottoir.
Oui,
exactement.
Ouais, le micro-trottoir, tu vois.
Le micro-trottoir avec lors des.
Ouais, puis le plan final des présidentielles quand il a l'écran géant derrière lui.
Et puis le plan avec la caméra qui descend jusqu'à America, tu sais, jusqu'au panneau America.
C'est le genre de dernière page
que tu as dans un épisode de Watchmen.
Dans l'ouverture.
Non. Eh oui, hein, les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Alors je sais pas, est-ce que vous avez d'autres moments qui craignent ou est-ce qu'il y a un autre moment dont on n'a pas parlé qui explose? Hein
moi je disais un qu'on n'a pas parlé vite fait, c'est dans le double épisode, donc avec le baron Blood. La fin du premier épisode et l'ouverture du deuxième, qui est vraiment du cliffhanger tel que je le kiffe, avec Baron Blood qui va pour mordre Captain America, il va se faire avoir et tout, et en fait ça reste comme ça à la fin de l'épisode, et ça reprend un mois après, donc avec la même planche, le petit résumé, et en fait, il va pour le mordre, mais il y a la côte de maille qui fait que ça le sauve au niveau de la jugulaire. Et en fait, c'est génial parce que c'est tout con et tout. Et en plus, tu te dis, dans le dernier épisode, quand il parle des origines, il y a le fait qu'au début, il n'avait pas cette, au niveau du casque, la protection de la jugulaire du cou. Et justement, ils l'ont rajouté à cause d'un événement, enfin, d'une des bastons. Et tu te dis, bah, finalement, ouais, ça l'a sauvé après, quoi. J'aime bien ce genre de cliffhanger aussi. Ça fonctionne toujours bien. Tu te dis pendant un mois, tu sais qu'il va s'en sortir, mais ça fonctionne très
Comment?
bien. Ouais.
Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on attendait un mois avant d'avoir un épisode à l'autre. Hein.
Avant l'épisode.
Donc tu pouvais patienter un bon moment dans le suspense le plus total. Bon, les moments qui craignent, on n'en trouve pas, hein, on est désolé.
Moi, j'aime bien le moment où il y a Batroc qui va à l'abordage du pétrolier et en fait, tu as tous
Oui.
les marins qui sont en train de regarder la nana de Batroc qui est en
Une
train de se tromper et la nana sort l'écran surprise, vous avez été abordé.
Ouais,
J'adore
ça c'est très
aussi.
bien.
Ça, c'est
Ça c'est très très
excellent.
très
C'est
bien.
excellent. Et il y a
Ouais.
aussi la scène où il vient sauver le maire ou je sais plus quoi, de la prise d'otage qui rappelle un peu celle de Robocop aussi,
Ouais, tout à fait, ouais.
au début de l'épisode sur la présidentielle, là.
Ah oui,
Je
exact,
disais,
ouais. En
toutes les
traversant
grandes
le mur,
célébrations du
ouais.
cinéma sont dans ce run. Ouais, où il traverse le mur comme ça.
Ouais, totalement.
Voilà.
Si, un
Bon, ben
moment qui
voilà.
craint, c'est que ça s'arrête au bout de 9 épisodes,
C'est
quoi.
ça, c'est ce que
Ouais,
j'allais dire.
voilà, c'est ça, le
C'est
grand
que ça ne
scandale, en
continue
fait,
pas.
hein, parce que... Bon, sans... bon, il y aura d'autres grands runs derrière de Captain America. C'est Jean-Marc Domatès qui reprend,
Ouais,
je crois, pas longtemps
Tech
après.
Mike
Voilà, qui est plutôt renommé. Moi, je suis un peu d'accord aussi pour dire que c'est peut-être un petit peu surcoté, mais c'est quand même pas dégueulasse. Et puis après, je crois que c'est Matt Gruenwald hein, qui va prendre le titre
Ouais.
pendant une bonne dizaine d'années. Donc là, il y aura à boire et à manger hein, dans le run de Gruenwald. Moi j'aime bien
Y a des
aussi,
hauts
mais
et des
c'est
bas, mais
voilà, il y a des hauts et des bas. C'est suivant
pendant
qui
longtemps,
est.
c'est très haut. C'est moi,
Ouais.
je surtout quand il y a, j'aime bien moi quand il y a Kieran Dwyer qui dessine.
Ouais,
Ouais,
ouais, ouais. Il y a toute
c'est
la
la saga
saga
du
avec.
Capitaine et
Ah, c'est super, la saga
le.
du Captain.
Ouais. Bon, c'est sympa. C'est moins méticuleux. C'est des parfois plus maladroit, mais il y a du bon. Il y a du bon. Ça dépend qui est aux commandes. Nous a posé la question d'ailleurs, qui est ce fameux Popo Caca dont on parle assez souvent? Bon, moi j'ai proposé s'il si avait un visage, il ressemblerait un petit peu à Bob Arras, mais il y a un
Il est
petit peu de Popo
multiple.
Caca. Voilà,
Voilà,
il y a un petit peu de Popo Caca dans tous les
qui est
éditeurs
des années 90.
voilà, qui ont suivi Jim Shooter, quoi. Enfin, ouais. Dans les années, oui, à partir des années 90, il faut dire ce qui est. Il y a eu du grand n'importe quoi. Pensez à la Marvolution, comme on appelait ça, quand la Marvel a décidé d'envahir, de submerger les stands de comics en produisant un nombre incalculable. Et
Ou
bah,
Sleepwalker.
selon le veille. Hein, donc,
Poker.
voilà, Sleepwalker par exemple. Pensez
Ah oh, putain.
Sleepwalker, voilà, quand vous pensez Popo Caca. Comment il s'appelle l'autre Dark, je sais pas quoi, là,
Darkhawk.
qui intègre les Vengeurs Darkhawk, voilà. Et puis toutes ces variations sur un thème, War Machine, Thunderstrike et compagnie. Hein, vous croyez que c'est cool, mais non, c'était pas cool. C'était pas cool du tout. Fantastic Four, ces trucs comme ça.
Fantastique.
Voilà.
Encore aujourd'hui, j'y
Swords.
crois pas qu'ils aient fait ça. C'est
Swords.
vraiment c'est important.
Swords.
Ouais. Et encore, moi,
Voilà.
c'était un des premiers boulots de Dan Abnett, je crois, chez
Ouais,
Marvel.
bah ouais, étonnamment, hein.
Ouais, c'était pas.
Non, mais
Mais
c'est vrai que la direction éditoriale qui était un peu aux fraises, quoi. Ils étaient à
ouais.
essayer de rattraper cette image et.
Voilà,
Ouais,
c'est
ouais.
ça. Il y a eu l'effet image où les dessinateurs prennent plus le
Spéculation et.
pouvoir.
Ouais, c'est pas génial, quoi.
Voilà. En fait, Popo Caca, c'est un peu quand la faiblesse prend le. Quand on se laisse aller à la facilité, quand on est un éditeur et qu'on sort une bouillie
C'est
incroyable.
l'archétype.
Voilà. Pensez Saga du Clone aussi, hein, que je vois beaucoup de gens essayer de nous faire croire que c'était l'alpha et l'oméga de Spider-Man. Non, la Saga du Clone, c'est de la merde. Hein. Voilà, pour avoir entendu ça de la...
Du clown, c'est par contre, c'est super intéressant à expliquer les mecs comment ils ont été dépassés.
Ouais,
par
le...
ouais totalement.
Il y a un site internet qui raconte comment ça s'est passé.
Ouais. Ils ont été, ils en fait, devait y avoir une fin. Et comme ça se vendait super bien parce qu'ils misaient beaucoup sur
le site.
Et avec ça, ben du coup, ils se sont dit, ben on va continuer là-dessus, quoi. Et ils ont continué trop longtemps, quoi. Ils ont continué jusque justement à épuiser un peu la patience des lecteurs. Sauf que c'était trop tard.
C'était trop tard.
Les petits trous étaient enlevés. Et, les freins. Les freins...
Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite.
Hein, c'était dans la descente, là.
Voilà, et, c'est fini. Et le mur était en bas. Voilà pour ce qui est de Popo Caca. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions, hein, s'il y a des points obscurs dans ce qu'on a dit, si on a, voilà, on a tendance peut-être à zapper des choses qui sont peut-être pas très claires pour vous. Donc voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous poser des questions. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast, évidemment, même les mauvaises, j'ai remarqué. On est aussi sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit toujours, pour l'instant. Vous cliquez sur la petite cloche, vous serez averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Vous likez, vous partagez, hein, si vous avez des amis. Je sais que c'est dur d'avoir des amis en ce moment, mais bon,
comme nous.
On peut y arriver encore. Et peut-être qu'ils seront intéressés de nous écouter. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Bah, pas grand-chose. On va se retrouver pour le plein de super très bientôt. Vous avez une émission complète sur Armure Wars qui est sortie très récemment, n'hésitez pas à la checker si c'est pas déjà fait, et on va revenir pour la suite de Avengers Rassemblement très bientôt, où on vous parlera de Rome, le chevalier d'espace. Donc ça c'est pour très bientôt. Voilà, merci les amis d'être venus.
Bah, merci.
Merci à toi.
Comme vous avez dit, Captain America c'est dispo très bientôt dans l'intégrale de Panini, si vous n'arrivez pas à le trouver autrement.
Ouais, mais il me semble qu'il y a une édition où tous les épisodes sont à part, mais là, pour le coup, je suis moins sûr.
Il, y a il est aussi, dans l'omnibus Marvel par John Byrne.
Ah, exact.
Je crois qu'il fait partie des épisodes qui ont été sélectionnés.
Mais ça a été publié en français, ça ?
Ouais.
Oui.
Okay.
Il y a deux, aux États-Unis, il y a deux tomes.
Il y a deux tomes.
Et le tome 1, dans lequel se trouvent les épisodes de Captain America John Byrne, a été édité en français.
Voilà, c'est les dernières informations qu'on voulait vous donner. On se retrouve très bientôt. On espère que ça vous a plu, écouter autant que nous enregistrer. À bientôt les amis. Ciao, bye bye.
Ciao.